Götürmüş. Il y a comme un renouveau, j'ai l'impression, justement, dans notre façon de
Je
faire.
pense qu'on s'est tellement toujours perçus comme des grands pacifistes que
Ouais.
tout ce qui était défense était très, très mal vu. Et là,
Ça nous touchait moins
dans
aussi, là.
les 2, 3 dernières décennies exactement, on a l'impression que ça se rapproche un petit peu plus de nous. On voit certaines populations avec lesquelles on voit des similitudes avec la
Ouais.
nôtre qui se retrouvent dans des situations absolument dramatiques. On n'est plus certain de certaines relations qu'on avait. Fait que c'est comme si notre perception de l'industrie de la
Ça
défense
change.
s'était changée exactement. En
Vraiment,
tout cas,
t'as
c'est de même que
raison.
je le vois, là.
Ben écoute, je te suis là-dessus. Si vous avez des questions en passant pour Eric, là, 88-971-1021, on pourra le
Des
reprendre cet
dossiers, ouais.
été, des dossiers, des choses que vous voulez comprendre peut-être. Je sais pas, je suis toute seule, mais moi, justement, je commence à m'intéresser de plus en plus à
Sous-marin.
ça, les sous-marins. Fait que, il y a de quoi de le fun à faire avec ça. Il est 16h bien pile. Les nouvelles au retour de la pause. Vous rappelez qu'à 16h30, on reçoit en entrevue Claude Meunier pour nous parler du malheureux décès de Marc Messier, survenu un peu plus tôt aujourd'hui. Du moins, on l'a appris aujourd'hui à l'âge de 78 ans. Vous êtes dans le retour de Boulevard 102.1, on vient.
Le retour de Boulevard jusqu'à 18h. 100% parlé tout l'été.
Réserver le camion, magasiner les électros, transférer mon dossier de pharmacie, classer les jouets de Léo, l'inscrire...
Julien.
Oui?
Commencez par votre transfert de dossier de pharmacie affilié à Brunet. Vous allez voir, c'est vraiment pas long. En plus, avec nos 30 succursales à Québec, on est à quelques rues de votre nouveau chez vous. Vous pourrez cocher ça de votre liste, puis on aime ça, cocher des choses de notre liste.
Tellement.
Brunet, on se connaît.
C'est donc vrai que tout est plus simple quand on se connaît.
Ce service est offert par vos pharmaciens propriétaires affiliés à Brunet.
L'histoire vous passionne? Partez à la découverte des projections spectaculaires de Cité Mémoire. 3 parcours ludiques vous attendent à Montréal, l'Assomption et à la Malbaie. Des expériences multimédia gratuites et inoubliables. Toute l'info sur citémémoire.com.
Profitez de l'événement cadeau du 50e chez Gréche et Scaff. Achetez une paire de lunettes complètes et recevez-en une deuxième en cadeau en plus d'une paire de solaires. Oui, 2 paires en cadeau. Jusqu'au 16 août, Chantal Gravel, opticienne. Détails au greche-scarf.com.
C'est pas pour rien qu'Abba, c'est le choix du consommateur depuis plusieurs années. Nos estimations sont gratuites, nos interventions sont rapides. Chez Abba, on vend du résultat. Il y a plus de 1000 avis en ligne qui prouvent que notre solution, ben, elle fonctionne. abbaextermination.ca ou appelez-nous maintenant au 666-6667. Abba, une solution définitive.
Lorsque vous achetez des meubles chez Wayfair, vous obtenez bien plus que des meubles. Vous aménagez votre maison pour y vivre des moments inoubliables. Visitez wayfair.ca dès aujourd'hui ou téléchargez l'appli Wayfair. Des meubles conçus pour tous les moments de la vie, c'est Wayfair. Wayfair, chaque style, chaque maison.
Boulevard 102.1.
Vous avez un témoignage, des préoccupations, une situation à dénoncer? Ça nous intéresse. Écrivez à Mathias Turcotte, notre journaliste RN. Citoyen, @blvd.fm. 102.1.
Venez créer des souvenirs en famille. Village Vacances Valcartier, une journée, c'est pas assez. Réservez en ligne pour économiser.
Ta voiture est comme pas neuve, mais t'en veux une neuve? On peut reprendre ta comme neuve et même...
Si vous venez de vous joindre à nous dans le retour de Boulevard, ben bienvenue. Faites attention, vous pouvez vous attacher. C'est ça qui est dangereux avec le retour. On est ensemble jusqu'à 18h. Je m'appelle Audrey Pinchot. Autour de la table, Véronique Bergeron, Antonine Iaccarini. On est là, évidemment, jusqu'à la fin de la semaine. Maxime Larouche qui se joint à nous dès la semaine prochaine pour la formule du retour estival. Présentement, à l'extérieur, on est à 29 degrés, ressenti 32. Fait chaud. Pas à peu près. J'ai une pensée pour les gens qui travaillent à l'extérieur. On est bien, nous autres, on a l'air climatisé, mais c'est humide. C'est humide, c'est un méchant temps.
Puis là, moi, je vois ceux qui partent faire des longues runs de jogging. Ils ont clairement pas la même constitution que le
gens,
reste
là.
Du monde.
À matin, là, j'ai pris la route de Saint-Raymond à 5h15, là, puis t'avais une fille qui courait justement sur le bord de la route. C'est sûr que c'était un peu plus frais, là. Mais quand même, il faut de la volonté, là.
Ben, on admire leur volonté, mais en même temps, si t'es sérieux dans ton entraînement... Puis que tu y vas pas quand il pleut, puis là, tu y vas pas quand il neige, puis là, tu y vas pas quand il fait chaud.
Un moment donné, t'es limité.
J'imagine mon grand problème.
Tu as raison. J'ai le même que toi, Véro, fait que je le fais juste pas. Donc, pour ce qui est de demain, ce sera un 30 degrés. Des possibilités d'averse à 30%, pas si pire en soirée 19. Jeudi 24, nuageux, 17 nuageux, et on se sauve de la pluie jeudi. Ce qui veut dire qu'officiellement, pour le début du Festival d'été de Québec, pour Limp Bizkit, ça sera pas si laid que ça sur les plaines, même que peut-être que de pas avoir full gros soleil, là, ça va faire du bien. C'est une journée où il annonce 24 degrés, fait donc on va être un peu plus loin du 32. Pour ce qui est de vendredi, samedi et dimanche, on est autour de 28 degrés. Gros soleil. La pluie se pointerait le bout du nez seulement lundi jusqu'à date. Sur les routes, je fais un petit tour avec vous parce que ça ne cesse de se compliquer. Si vous êtes sur la capitale direction Est en ce moment, entre Henri IV et Laurentienne, c'est déjà pas mal au rouge. Direction Ouest, ça se passe entre Henri Bourassa et Laurentienne. Robert Bourassa, direction Nord, ça va se passer à la hauteur de Wilfrid Hamel. Si vous êtes sur Charest Est, ça se passe entre Duplessis et Henri IV. Parlant de Duplessis, direction Sud, de Versant Nord au pont, c'est au rouge. Même chose pour Henri IV Sud, à peu près de Charest au pont La Porte, c'est assez difficile. Un peu plus haut dans le nord, devant la base militaire, dans les deux directions, route de la Bravoure, ça démarre pas. Des problèmes aussi sur route de Fossambeau entre des Érables et de la Jacques-Cartier. Si on s'en va sur la rive sud, ça bouge pas non plus depuis le début de l'émission, donc les problèmes sont surtout entre la route du président Kennedy et chemin des îles. Quelques ralentissements à hauteur Taniata aussi, il y a des problèmes de travaux là-dedans. Guillaume Couture, difficile également dû aux travaux entre chemin des îles et Taniata. Et vous serez pas surpris d'apprendre que sur chemin des îles, entre Guillaume Couture et Lavin, c'est un peu bordélique aussi. Les gens essaient de s'en sauver, veut pas. Il y a aussi des problèmes un peu plus haut dans les deux directions, entre Monseigneur Bourget et la route du président Kennedy. Ça, c'est pas mal, les grandes artères. S'il y a autre chose, vous vous gênez pas. Ça passe toujours par le 88-971-1021 texto. Téléphone, vous avez envie de jaser, ben, vous pouvez vous essayer. 88-780-1021, le messenger de Boulevard. Et je le dirai jamais assez, si vous avez des dossiers, des choses à faire creuser, on a un journaliste terrain, Mathias Turcotte, qui est exceptionnel, citoyen à commercial, blvd.fm. Véro, j'imagine qu'on n'a pas le choix de commencer avec la nouvelle qui tire les émotions aujourd'hui. Marc Messier, qui nous a quittés à l'âge de 78 ans.
Oui, une annonce qui a été faite un petit peu plus tôt aujourd'hui par son agence entourée, ses proches, suite à une brève maladie. Clairement, si on en croit la réaction des gens qui étaient assez proches de lui, c'était somme toute inattendu, considérant qu'il avait continué à travailler au courant des dernières semaines et des derniers mois. Marc Messier, c'est plus de 50 ans de carrière. C'est des générations qui l'ont connu sous différentes incarnations, que ce soit Brou, qui a d'ailleurs le record Guinness de longévité pour une pièce jouée avec la même distribution. Tu sais, il y en a eu une deuxième mouture au courant des dernières années, mais la mouture avec lui et Michel Côté, ça a duré des décennies et des décennies. D'ailleurs, je ne l'ai jamais vu.
Mais moi non plus.
Moi non
plus. C'est quasiment
gênant. Les trois. Oui, non, mais depuis tantôt, c'est drôle parce qu'on en parle, puis j'arrête pas de me dire, ah, je le dis-tu, je le dis pas. Tu sais, il y a des affaires, des fois, justement, que t'assumes pas.
Tu sais, c'est comme si la première mouture, pour moi, avec Marcel Gauthier aussi, là, c'était quelque chose qui allait durer éternellement. Fait qu'il y avait pas d'urgence de le voir. Fait que quand ils ont annoncé leur retraite à eux de Brou, j'ai quand même fait, ah, je viens de manquer ma chance, tu sais. Puis, je fais partie de ceux qui l'ont pas vu. Puis, je m'étais tellement fait dire, tu sais, Brou, il y a des gens qui sont allés le voir plusieurs fois, puis tu as toujours la même question au début, là, qui que c'est leur première, leur deuxième. Vous avez toujours pas compris c'était quoi, puis moi, ça m'avait fait bien rire, mais je l'ai pas vécu moi-même. Mais nous autres, dans les années 80, c'était Marc Gagnon qui était la figure populaire dans l'Ancien Compte avec, bien sûr, Pierre Lambert, La Petite Vie, Régent avec sa perruque orange, mon Dieu, ça nous a fait rire pendant des années et des années. Dans Les Boys, ils ont encore réussi à nous faire rire, puis là, je vous parle même pas du théâtre, des films, puis d'autres séries télé qui se sont poursuivies au courant des dernières années. Dans une vingtaine de minutes, on devrait parler à un de ses compères et amis de longue date, Claude Meunier. Il y a aussi eu l'hommage à Mohamed Lamine Benredouane, qui est ce policier qui est décédé le 22 juin dernier dans une fusillade à Montréal. On avait suivi ces événements-là. L'homme de 34 ans, donc, pour lequel il y a eu un cortège de milliers de policiers à travers l'Amérique du Nord. Je voyais, entre autres, des images qui provenaient de différents corps de police qui ont souligné son engagement.
C'est impressionnant. Alors, la fratrie, hein?
Très, très, très impressionnant, les images aujourd'hui. Puis ça a été un long cortège avant de se rendre du côté du Centre Bell, de ce que j'ai compris, pour poursuivre les hommages de ce côté-là. L'homme qui était père de famille, il y avait une autre victime dans cette histoire-là, un citoyen qui a aussi péri sous les balles, puis une policière qui, à l'heure où on se parle, qui était sa partenaire, qui est toujours aux soins intensifs, même si ça fait quelques semaines que cet événement-là s'est déroulé. Du côté de Québec, la SQ qui enquête sur un incendie suspect qui est survenu la nuit dernière dans le secteur de Saint-Joachin, sur la côte de Beaupré. Il avait été appelé vers 2 heures du matin à se rendre là dans un garage résidentiel. Ça a causé des dommages importants au bâtiment. La maison a dû être évacuée. toujours personne qui a été arrêté avec cette affaire-là, mais malgré tout, l'enquête se poursuit. Journée de conseil municipal, Mathias, c'est le dernier avant la fin août, si je me fie à mon calendrier. D'ailleurs, Mathias Turcotte est venu nous voir un petit peu plus tôt avec des extraits. Dans les derniers jours, plusieurs textes de Radio-Canada qui parlaient de l'intolérance vis-à-vis des itinérants de la part des autorités. On peut écouter ce que Bruno Marchand avait à répondre.
On vit dans une société où on ne peut pas faire les choses comme chacun le veut. À 600 000 personnes, c'est impossible. Alors oui, il y a des règles, puis il y a des règles pour les itinérants aussi. C'est pas parce que vous en arrachez que vous avez le droit de faire n'importe quoi. C'est pas parce qu'humainement parlant, vous mettez un genou au sol que vous pouvez faire n'importe quoi sur votre voisin. J'en connais pas d'exemple où ça va bien, les campements. Ce que je connais, c'est des exemples où les pompiers interviennent. Ce que je vois, c'est des endroits où les policiers interviennent. Ce que je vois, c'est des endroits où le crime organisé va. Ce que je vois, c'est des conflits entre les gens. Ce que je vois, c'est des voisins autour dont la vie est complètement altérée. Qui pense à ces voisins-là? Qui pense au quartier?
C'est direct, mais c'est clair.
Oui, puis je pense que la Ville, de toute façon, met tellement de l'avant tout ce qu'ils font de bon pour l'itinérance. On s'attendait un peu à une réponse comme celle-là. Les autres questions, ça a été beaucoup sur la sécurité routière, des accidents importants qui ont eu lieu, principalement dans le secteur de Beauport. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas ailleurs, mais c'est parce que quand tu te retrouves avec des enfants à l'hôpital, quand tu te retrouves avec un enfant de 11 ans décédé après un accident alors qu'il était à bicyclette, ça soulève beaucoup de questions. Le maire Marchand qui s'est prononcé sur ce que la Ville fait en frais de sécurité routière.
Toujours ramener chaque aménagement à la gare à l'auto, là, c'est complètement disgracieux. Puis on l'a vécu dans des endroits, je vous rappelle les saillies de trottoir, là. On l'a vécu dans des endroits où, parce qu'on enlevait un stationnement pour élargir le trottoir en bout de rue pour faire en sorte de rapprocher les deux intersections et que le piéton soit moins longtemps dans la rue, des conseillers, des conseillères qui se sont fait tirer des tomates par du monde. Hey, la guerre à l'auto, vous... Non.
Dans les autres...
C'est la guerre aux accidents, c'est la guerre aux pertes de vie, c'est la guerre aux gens frappés, c'est la guerre aux gens blessés. Oui, ça, c'est la guerre. Ça, c'est notre guerre.
Dans les autres éléments qu'on a pu apprendre aujourd'hui, ça va coûter quelque part entre 2 et 3 millions de dollars pour restaurer le monument de Samuel de Champlain qui est sur la terrasse du Frein dans le Vieux-Québec. Hey, ça avait été érigé en 1898. Ça date quand même, ce monument-là.
Vieux.
Oui, c'est quand même vieux. Il y avait quand même eu des travaux de restauration qui avaient été faits depuis, mais il y a quand même eu une dégradation importante. Puis, selon les rapports d'expertise... Bien, on estime le montant à cette hauteur-là. Pourquoi on en a jasé? C'est qu'il y avait l'opposition qui avait demandé de rapatrier la statue de Samuel de Champlain.
Le maire dit
déboulonnée du côté de l'Ontario. Puis on dit, bien, ça nous coûte déjà assez cher, les monuments du genre. D'ailleurs, parlant de l'opposition et de Stéphane Lachance, le journal nous apprend qu'il est maintenant fier propriétaire dans le secteur de Beauport. Ça avait fait couler beaucoup d'encre quand Stéphane Lachance avait choisi de se présenter à la mairie de Québec parce que lui était résident de Lévis. Disait qu'il était locataire à Québec, qu'il avait sa business, qu'il avait pignon sur rue à Québec. Il voulait s'installer dans le secteur de Val-Bélair, qui est l'arrondissement qu'il représente. Mais ce qu'il a mentionné, c'est qu'il n'avait pas trouvé ce qu'il recherchait du côté de Val-Bélair. Fait que c'est le quartier Sainte-Thérèse de Lisieux qui sera maintenant lieu d'accueil pour Stéphane Lachance. Le Vieux-Port de Québec qui va accueillir la Maison des sciences par l'intermédiaire de l'Espace 400. L'Espace 400, ça avait été un cadeau du fédéral de mémoire pour le 400e de Québec. Puis c'est là où on avait installé, entre autres, des installations en lien avec le moulin à images. Puis il y avait... Ça, c'était magnifique, la terrasse sur le toit. Puis moi, je me disais, c'est un acquis pour la Ville de Québec pour... le reste de notre vie. Puis finalement, si vous avez eu la chance une fois de temps en temps de mettre les pieds là, c'est parce que vous êtes allé voir une exposition ou encore que vous aviez des contacts. Disons que ça n'a pas été exploité à son plein potentiel. Et on avait un projet de maison des sciences à Québec qui aurait dû s'établir dans le secteur du petit séminaire parce qu'eux ont une collection importante scientifique. Et finalement, dans ce secteur-là, ce sera plutôt le Musée national de l'histoire du Québec, le NAT, qui va s'installer. Fait que depuis quelques mois déjà, on avait l'œil sur Espace 400. Puis là, ça a été une confirmation qui a été faite de la part de la Ville de Québec, du gouvernement du Québec et du Musée de la civilisation. Par contre, ne retenez pas votre souffle pour l'ouverture parce que c'est dans au plus tôt 4 ans. Fait que c'est quand
on est bon dans les annonces d'avance, hein, peu importe
les
lesquelles. Là,
dans le Vieux-Québec 2028, on peut le sous-marin 2034.
On est prévoyant.
On ne sera pas surpris quand ça va arriver.
Bien, on critiquait que ça manquait de vision. Regarde, on a des projets à long terme, c'est correct.
Puis, tu sais, parlant de projets à long terme qui ne marchent pas, bien, les projets à court terme non plus, il faut croire. Je vous rappelle que si vous aviez des jeunes de secondaire 4 ou 5 qui attendaient avec impatience leur note d'examen ministériel puis qui voulaient aller voir ça en ligne aujourd'hui, Si ça n'a pas marché pour vous, vous n'êtes pas les seuls. Ça a fait peut-être pas à peu près depuis très tôt aujourd'hui. Même la ligne qui avait été mise en place pour aider a plus ou moins fonctionné. Il y a eu des ratés de ce côté-là.
C'est toujours pas en fonction au moment où on se parle.
Ça semble toujours pas en fonction au moment où on se parle. Fait que, il aurait dû faire un soft opening. Tu sais, tu fais ça quand tu ouvres un restaurant ou un hôtel.
Un soft
là, tu l'annonces. Ouais, exactement. Tu l'annonces pas, les gens se branchent, tu vois si ça marche ou pas. Là, ils se sont tous branchés puis ça n'a pas marché.
Ou faire des essais, tu sais. Avant d'annoncer, ça aurait pu être une option.
Des plans quand même. Ils l'ont peut-être fait, par exemple. Des fois, ça marche à l'essai, puis quand vient le temps de le faire pour vrai... Ben,
si on leur laisse le bénéfice du doute, voilà, Antonine, ouais. Si on leur laisse le bénéfice du doute. Il est 16h17. Anto, on te connaît comme experte en politique. Tu viens souvent nous jaser à Boulevard, entre autres pour ça, en saison régulière. Mais tu as un autre champ d'expertise qui est celui des communications puis des relations publiques.
Oui, madame.
Ça nous sert souvent dans des discussions politiques, justement. Mais tu nous as proposé cet été une chronique communication, puis je trouve ça super intéressant.
J'essaie de sortir un peu de la communication politique, mais ça se peut, je me laisse quand même la possibilité, là, s'il arrive quelque chose de gros, de vous faire une chronique communication politique. Mais comment ça va fonctionner, c'est que je vais vous amener un sujet qui m'a accroché. Ça peut être une campagne de pub, ça peut être une gestion de crise. On sait que des fois, il y a des gestions de crise catastrophiques. D'habitude, quand elle est bonne, la gestion de crise, bien, on n'en entend pas beaucoup parler. Fait que c'est difficile pour moi de vous en faire une chronique comme telle. Mais je veux aussi prendre l'occasion pour poser des questions à nos auditeurs sur des enjeux de communication de tous les jours. Donc, je ne vais pas seulement être dans la théorie de relations publiques. Avant de vous parler du sujet qui m'a accroché cette semaine, je vous lance tout de suite la question si vous voulez commencer à nous envoyer des textos puis à nous en parler. Ma question aujourd'hui pour vous, c'est est-ce qu'on a trop de canaux de communication?
Oui.
C'est drôle parce que là, oui, merci.
Tu veux dire sur les réseaux sociaux, par exemple?
Non, écoute, même en général dans vie. Là.
Absolument.
Teams, courriel, texto, messenger, vocal, ça arrive.
Instagram,
de tous les
WhatsApp.
WhatsApp. Donc, est-ce que vous trouvez qu'on en a trop? Puis je reviens dans un instant. Je vous parlerai des conséquences que ça peut avoir sur notre travail et sur notre santé mentale aussi. Mais je voulais d'abord vous parler d'une campagne de pub vraiment créative, digne un peu de Emily in Paris.
Okay.
Vous avez vu cette série-là? Elle a des très bonnes idées, Emily, pour faire des coups de pub, des coups marketing.
Elle sauve la compagnie pour laquelle elle travaille 1 milliard de fois sur la série Netflix.
Exactement. Puis bon, elle a du beau linge qui vaut des centaines de milliers de dollars. On ne sait pas comment elle fait pour se le payer. Mais ce n'est pas le sujet de ma chronique. Je voulais vous parler d'une campagne de pub. Est-ce que vous connaissez les magasins Carrefour en France?
Oui, c'est des épiceries.
Ça me dit quelque chose, mais ce n'est pas...
C'est une grosse chaîne d'épiceries. En France. Okay, 15 000 magasins, c'est multinational, il y en a ailleurs qu'en France. Ils ont eu un très bon flash de faire une espèce de coup de pub en ouvrant un restaurant qui, on ne sait pas là, au départ que ça a un lien avec Carrefour. Il y a des indices, notamment le restaurant s'appelle Le 50. Quand tu regardes le C du 50, c'est un peu le même C que Carrefour. Donc, okay, il y a des petits indices comme ça. Et le menu est entièrement composé de choses que vous pouvez trouver chez Carrefour. C'est un peu comme si on ouvrait un restaurant ici avec juste des produits du Maxi.
Bien, le Italie, ben, New York, Chicago, puis tout ça, je pense qu'ils font la même chose,
hein,
là, parce
ouais,
que, OK, on s'entend que c'est beaucoup plus haut de gamme que le Carrefour, là, mais
fancy.
Tu vas avoir des petits restaurants à l'intérieur où c'est les produits du resto
ouais,
qui sont utilisés.
Tu peux tout retrouver ce
ouais,
que tu as mangé, là, c'est le fun.
Après ça, le défi, c'est de le cuisiner.
Ouais, c'est ça. Ça,
ouais,
c'est une autre
bon,
affaire.
Ça, c'est une autre histoire. Donc, le restaurant Le 50, c'est comme un bistrot, là. C'est très trendy, avec des bonnes bouteilles de vin, avec un grand chef qui fait de la cuisine bistrot française. Ils ont fait le lancement de ce restaurant-là en faisant des partenariats avec des influenceurs, des gens qui sont des créateurs de contenu, qui allaient dans le restaurant puis qui se prenaient en photo. C'est pour ça que je vous dis que ça me fait vraiment penser à Emily in Paris parce que c'est pas mal ce genre de choses-là qu'elle fait. Et finalement, on apprenait un peu plus tard que ben, c'est des produits du magasin Carrefour. Puis ça, cette technique-là en marketing, en communication, en publicité, c'est des campagnes qu'on appelle « show, don't tell ».
Ah oui!
Donc, montrez-nous, mais ne nous dites pas. Et l'objectif, c'est de passer par-dessus un préjugé. Parce qu'on a une idée qu'on se fait dans notre tête. Si je fais le parallèle avec le Maxi, je vous dis, moi, j'ouvre un restaurant qui s'appellerait Le Maximum, par exemple.
Ouais.
Et ça serait juste la bouffe du Maxi. Vous avez l'impression que Maxi, c'est une épicerie bon marché.
Ouais.
Vous avez trouvé du steak
haché. Accessible, bon, c'est ça. T'as pas l'impression que c'est haut de gamme, en fait.
Exact. Donc, t'as pas l'ouverture de voir la qualité nécessairement. Tout ce que tu vois, c'est pas cher.
Kraft avait fait ça il y a 10 ans avec son Kraft Dinner. parce qu'il y avait des colorants qu'ils devaient retirer, c'est donc ils devaient changer la recette. Ils l'ont fait, puis ils l'ont dit juste quand ça a été terminé, puis que ça avait déjà été commencé à consommer, puis personne n'avait vu la différence.
Ben, c'est ça.
On a changé la recette, vous l'aimez. C'est
fait que ça fait pas un pli dans la poche à personne parce qu'on est satisfait du résultat.
Exactement.
On n'anticipe pas.
Ton stéréotype,
fait.
L'idée que tu te faisais de quelque chose, ben, on t'a un peu induit finalement en erreur, mais de façon à ce que tu expérimentes de façon neutre l'aliment ou l'expérience.
C'est pas beaucoup, Anto, par exemple, pour un coup marketing. T'sais, dans le sens que Kraft Dinner, c'est une chose. On voulait, fallait changer la recette, les colorants, mais bon, fallait que tu le fasses anyway. Fait que, ils ont quand même bien fait de se la jouer comme ça. Mais tu sais, c'est quand même gros de te dire, OK, pour faire le coup marketing pour mes épiceries, je vais ouvrir un resto. Là.
C'est pas à la portée de tous. OK, c'est une grosse multinationale. Carrefour, on s'entend que si vous avez une petite entreprise qui a pignon sur rue avec 3 employés, tu sais, ouvrir un restaurant, tu fais pas ça, évidemment, mais c'est un gros coup qui devait faire partie d'une stratégie plus large où on voulait changer un peu l'image puis venir redorer un peu le blason de cette bannière-là. Puis en plus de ça, il y a de l'argent, beaucoup d'argent et de bénéfices générés par ça qui ont été remis à l'association de la Tablée des chefs qu'on connaît ici, partenaire de la Fondation Carrefour, qui permet de financer des repas, des programmes d'éducation culinaire dans des collèges, des foyers, puis d'accompagner des jeunes pour qu'ils fassent des meilleurs choix alimentaires. Donc,
il y avait l'image sociale a été polie aussi.
Il y avait tout un aspect caritatif, philanthropique à travers ça.
Tu vois, il y a quelqu'un qui nous texte. Le Tradition à Saint-Damien-de-Bocklen a ouvert un casse-croûte qui s'appelle le Trad, puis ils font exactement
c'est cool.
Je trouve ça très hot. Ben oui, je savais pas qu'on avait ça pas trop loin, mettons.
Effectivement, c'est pas à la portée de tous, mais ça, c'est le petit casse-croûte, le petit food truck, ça peut effectivement être une option peut-être moins coûteuse là, que d'ouvrir un grand restaurant. Ah,
mais tu parles d'un bon coup marketing. Je comprends vraiment que c'est éphémère, là, mais ça a dû coûter une mini-fortune. Mais souvent, on en jase jusqu'ici.
Mais c'est ça, ça fait le tour. Là.
Ouais, puis moi, je suis encore impressionnée et fascinée par la créativité de certaines campagnes de publicité. Puis on est bombardé de contenus et d'affaires sur les plateformes de médias sociaux. Mais il y en a encore.
De se démarquer.
Ouais, mais encore du monde qui se démarque avec des campagnes judicieuses comme celle-là.
C'est très hot pour vrai. Puis j'aurais été... tu sais, on voit souvent l'inverse ici, c'est-à-dire que des restaurants vont sortir leurs produits qu'on peut maintenant acheter, mettons, pour se faire... Tu sais, je sais que sans trop faire de pub, là, Topla va vendre ses sauces de pâte. Tu sais, on voit l'inverse, mais ça, vois-tu, j'avais jamais vu ça, puis c'est vrai que c'est très hot comme principe. La question, elle a attiré l'attention, 88-971-1021, si vous voulez répondre, ta question de départ, est-ce qu'on a trop de canaux de communication? Tu vois, ici, on a Paolo qui nous dit... bon, j'espère que ce sera pas trop pire commande vocale pour répondre à la question. Bon, OK, absolument. Il y a beaucoup trop de canaux de communication. J'ai découvert lorsque ma fille avait une dizaine d'années et qu'elle voulait contacter des amis de son école. Certaines, c'était avec une ligne téléphonique, d'autres avec Snapchat, d'autres avec Messenger, d'autres, c'était des applications de communication à l'intérieur de certains jeux. Ouais. Fait que c'est vraiment cacophonique, là. Ça n'a pas de bon sens. Puis, tu sais, surtout pour rejoindre des amis, il dit, d'une dizaine d'années, les enfants d'aujourd'hui ont trop d'options aussi au-delà de nous. Tu sais, il dit, à mon époque, tu prenais la ligne téléphonique ou tu prenais ton vélo.
C'était ça. Les options que tu avais. Puis quand tu appelais, ben, il fallait que tu passes à travers le filtre parental.
C'est vrai.
Bonjour, madame, est-ce que je peux parler avec...
C'est parce que là, c'est l'heure du souper. On n'appelle pas les gens à 18 ans.
Ma mère faisait tellement ça. Tellement qu'à un moment donné, j'ai demandé d'avoir ma propre ligne téléphonique et elle a dit oui parce qu'elle était tannée de répondre à mes amis au téléphone.
Mais t'appelles pas sur l'heure du souper.
Mais ça, c'est encore une règle qui, pour moi, devrait perdurer. Oui, moi, ça me fait rire.
Les gens ne respectent pas ça.
Les gens ne sont pas tous à même heure, là, les amis. Mais ça l'a dit.
C'est même passé à tondeuse. Là.
Mais c'est ça, là. Je vais finir juste mon point là-dessus. Là.
Ah, oui.
Mais moi, mes parents, là, sont rendus... On n'est plus à la maison, là. Puis quand je vais manger chez mes parents, chaque fois, je pense que je peux dire chaque fois sans exagération, il y a quelqu'un de la famille ou des amis qui appelle aux alentours de 5h30, 18h, puis je suis comme... Voyons, on est autour de la table, mettons, puis mes parents répondent!
Ah, ils répondent! Hein?
Puis je me souviens, quand on était jeunes, pas de téléphone à table, soit tu soupes, tu reçois pas d'appel. Puis c'est drôle, on a parlé cette semaine, puis il était comme, hey, nous autres, on a fait notre job de vous élever, maintenant que vous êtes partis, on peut se lousser.
Ouais. Okay. Puis tu sais que ce loussage-là va concerner tes enfants aussi, en
c'est
passant
sûr.
Tout ce qu'ils te demandaient de pas faire, puis toutes les règles, ça tient pas pour les petits-enfants. Mais tout ça pour dire que effectivement nous, dans notre temps, tu avais le choix entre courriel, appel téléphonique, là, mettons, là, c'est il y a quelques années à peine. Maintenant, c'est la multiplication des endroits où on peut nous envoyer un message.
Ah, moi, puis ça se peut que vous m'écriviez en quelque part puis que vous n'ayez jamais de réponse.
Ah, moi ben, aussi. LinkedIn, n'essayez-vous pas. Hein?
Mais c'est ça. Les gens qui nous écrivent bien confiants me tombent dans la messagerie privée de X ou de LinkedIn. Il ne faut pas que ce soit urgent. Ce n'est pas tout le monde qui communique comme ça.
Même Messenger, si on n'est pas amis, moi, ça tombe dans les limbes.
Dans les limbes, oui.
Des fois, je retrouve comment aller dans les limbes. Je suis comme, ça date de 5 ans, ce message-là.
Ça fait un
mais
bout, hein?
Prenons un instant pour penser au nombre de notifications qu'on reçoit dans une journée.
C'est anxiogène.
Parce que ta vie personnelle et il y a la vie professionnelle. On sait que la ligne entre les deux est de plus en plus ténue à cause du télétravail puis à cause de tout ce qui est numérique.
Recevez-vous des notifications de tous vos moyens de communication?
J'en ai bloqué quelques-uns.
Moi, j'en ai beaucoup de bloqués.
Moi, je reçois de tout. Ben, puis je pense que c'est parce que j'ai un petit déficit puis j'ai peur d'en oublier. Fait que ben, je me
c'est
dis,
la peur
au moins,
de manquer
vois.
Quelque chose. Effectivement, avec nos jobs aussi, tu sais, on envoie des perches à des gens, on essaie de rejoindre du monde, donc on essaie de regarder toutes nos plateformes. Mais texto, Messenger, les messages privés d'Instagram, Snapchat, les messages privés de LinkedIn, les messages privés sur X, Teams, les courriels, les appels directs puis les messages sur la boîte vocale, ça fait énormément de notifications, de canaux. Puis juste faire le tour de tout ça, là,
c'est du temps, là. On ne peut pas avoir des 5-6 heures sur nos téléphones par jour. Honnêtement, c'est un travail à gérer ces différentes plateformes-là.
Et ce qui est un peu déprimant, c'est qu'à chaque fois qu'on se déconcentre de ce qu'on est en train de faire, disons qu'on pense à notre vie professionnelle. Puis là, il faut que tu écrives un plan là, pour une entrevue qui s'en vient dans ton émission. Puis là, il faut que tu te concentres 5 minutes. Ça prend en moyenne 23 minutes 15 secondes pour trouver l'optimum de concentration.
Ah, ouais, hein?
OK? Donc, là, j'ai dit un plan d'entrevue, mais tu sais, peut-être quelque chose qui demande un petit peu plus de, tu sais, par exemple, d'écrire une stratégie ou de faire un PowerPoint ou, tu sais, de te pencher et de dire, il faut que je me concentre sur quelque chose. 23 minutes, 15 secondes. À chaque fois qu'on vous interrompt ou que vous regardez votre téléphone, le compteur revient à zéro.
C'est ridicule.
Donc, voyez-vous la productivité, comment elle s'en retrouve affectée? Selon les experts, la multiplication des canaux de communication puis les notifications qu'on reçoit à journée longue comme ça, ça contribue à l'épuisement professionnel.
Il y a quelqu'un qui me dit, j'ai un bon truc, télécharge pas d'application, utilise ton téléphone comme dans le temps.
Bon,
ouais,
on aimerait ça, mais c'est plus réaliste.
Ben non, c'est pas réaliste. Voyez-vous, nous autres, ici, on a Teams, là, qui est comme la secte, là, pour, mettons, qu'on soit tous capables de se rejoindre à travers les différents départements, là. J'haïs Teams. Puis moi, ça fait plusieurs fois que je me fais rencontrer et me faire dire, Audrey, quand tu veux parler à quelqu'un d'un autre département, de la job, puis que, visiblement, il n'est pas ces mêmes heures que toi, parce que nous autres, on n'a pas vraiment d'horaire de travail, on est pas mal tout le temps sur le... Bien, il faut que tu utilises Teams, parce que Messenger, c'est plus personnel. Puis, mais tu comprends, à un moment donné, moi, j'essaie
de
centraliser.
D'écrire sur Messenger, ça donne une impression d'urgence. Alors que Teams,
mais
tu le sais que c'est sur tes heures
pas.
De bureau.
Puis, tu vois, je me rends compte que j'irrite d'autres mondes, parce que moi, les courriels, je me suis mis une règle. C'est une fois par jour sur l'heure du midi. Si tu m'écris en après-midi, tu n'auras pas de réponse avant demain midi.
En fait, c'est vraiment important ce que tu dis, c'est que chaque personne a comme son hygiène de vie, ses habitudes, mais ne sont pas nécessairement compatibles avec celles des autres. Parce qu'il y en a tellement que, tu sais, je veux dire, on va pas remettre un guide. Gars, moi, ça marche comme ça, mes communications.
Puis là, tu vas croiser cette personne à un moment donné dans ta vie qui va t'envoyer un texte, un appel, un messenger pour te dire qu'elle t'a envoyé un courriel et que tu n'as pas répondu dans 30
moi,
secondes.
Moi, ça, là.
Un
si
fax
tu m'as...
avec ça?
Hey, pour vrai, là. Si tu m'as texté, je vais finir par le voir puis je vais te revenir. Ça ne sert à rien de m'écrire sur toutes les plateformes pas possible.
Mais, tu sais, puis on fait des blagues parce qu'il y a un texto qui nous disait « flushez-moi tout ça ». Mais c'est quoi les solutions vraiment réalistes qu'on peut appliquer?
Moi, ce serait centralisé, mais c'est toutes des entreprises différentes.
Mais c'est ça, il y en a qui utilisent Slack.
Très difficile de centraliser ou de choisir parce que tu as aussi une équipe de travail. Il y a aussi, à un moment donné, je pense, de refuser certaines plateformes. Moi, il y a WhatsApp. Récemment, quelqu'un qui m'a dit « ajoute WhatsApp ».
Il y en a
que
tu
non,
peux pas, là.
C'est là que je mets ma ligne.
Ouais,
donc, je ne sais pas comment
ça.
Vous faites pour le gérer,
c'est
là,
dur.
Mais c'est dur.
C'est vraiment difficile. On va continuer de vous lire au 88-971-1021. Au retour de la pause, on a un invité, j'ai envie de dire quand même, de marque dans les circonstances. On est très chanceux de le recevoir parce que c'est une journée émotive. C'est Claude Meunier qui a accepté de nous parler. Claude Meunier, mon Dieu, la petite vie, auteur des voisins co-auteurs de Brou. On en a parlé un peu plus tôt et on va jaser de son ami Marc Messier qui nous a malheureusement quitté aujourd'hui à l'âge de 78 ans. C'est dans quelques minutes à Boulevard 102.1. Manquez pas ça.
Le retour. Marceau le matin.
Du 29 juillet au 2 août, manquez pas le Festival de Lévis. 5 jours de musique, plein d'activités pour toute la famille. Marshmallow, Salbab, Papa Roach, Jeff Posé, The Offspring, Engine de poitrine, Les Vulgaires Machins, Cain et plusieurs autres. Depuis maintenant plus de 40 ans, le festival, c'est la destination pour la musique, la famille, les montgolfières. Puis pour un temps limité, il y a le passeport adulte. 5 jours en pré-vente à seulement 80,99 plus taxes au festival.ca. C'est un rendez-vous du 29 juillet au 2 août au Parc Champigny pour la 43e édition du Festival de Lévis. Boulevard 102 et le Festival, Pierre Parti. Partenaire de vos sorties musicales, une présentation Loto-Québec.
Pendant l'été,
j'oserais dire qu'on a une chance extraordinaire de vivre ce qu'on va vivre dans les prochaines minutes parce que, d'un sens, c'est un côté, je trouve, très ingrat des médias, de notre travail quand il arrive des tragédies comme celle d'aujourd'hui où on perd un grand, j'ai envie de dire, Québécois de la télé québécoise, Marc Messier, qui est décédé d'une brève maladie entouré de ses proches à 78 ans. C'est le moment plate où tu veux rendre hommage à cette personne-là, tu veux le faire de la meilleure façon possible et pour ça, souvent, tu dois d'aller chercher des gens dans son entourage, mais qui malheureusement vivent un deuil, vivent des journées difficiles. On a lancé une perche sans avoir d'attente, puis on est tellement heureux que
c'est privilégié.
Oui, vraiment que cette personne-là ait décidé d'embarquer avec nous pour rendre hommage à Marc Messier, Claude Meunier, qu'on connaît pour plein de projets communs. J'ai envie de dire à Marc Messier, je vous parlais tantôt de La Petite Vie, Les Voisins, Brou. Tu sais, Marc Messier, mon Dieu, a fait ses premiers pas dans sa carrière dans les années 70 dans L'Africassé, qui est une émission pour enfants. Puis après ça, bien, tous les grands classiques dont je vous ai parlé, L'Ancé Compte.
Moi, ça a été, je l'ai connu comme étant Marc Gagnon dans L'Ancé Compte. Fait que pour moi, Marc Messier était un acteur sérieux parce que c'était une époque où tu n'avais pas la possibilité de regarder beaucoup ce qui se faisait auparavant. Fait que moi, j'étais saisie de le voir être régent dans La Petite Vie, de voir à quel point ce gars-là pouvait être comique comme ça, aucun sens.
Et c'est un homme qui a touché plusieurs générations parce que j'ai été évidemment au courant de ces classiques-là, mais dans le plus récent, pour moi, Marc Messier, ça a aussi été Hubert et Fanny dans une série québécoise qui est maintenant sur Netflix. Ça a été L'Arracheuse de temps, film de Fred Pellerin qui est sorti en 2021. Il a été dans Omerta, Urgence, Toute la vérité, c'est des grandes séries québécoises qui ont passé à la télé et il était encore actif en frais de tournage. Donc, ça a été quand même une surprise pour plusieurs. Claude Meunier, qui est avec nous. Premièrement, M. Meunier, je veux vous remercier de prendre le temps d'être avec nous cet après-midi puis de nous donner ce temps-là malgré la grosse journée.
Ouais, je ne dirais pas que ça me fait plaisir, mais j'ai envie de parler de Marc, c'est sûr. Un grand hommage à Marc, mon grand ami, qui est parti, trop vite.
Je vais prendre la balle de cette façon-là, M. Meunier. Vous me dites, j'ai envie de parler de Marc. Je vous laisse aller.
Je vous laisse aller. Je ne sais pas où je vais aller avec ça. Mais Marc, c'est un ami depuis toujours. C'est un gars avec qui on a fait notre vie un peu ensemble, d'une manière, dans le sens qu'on on a eu beaucoup de projets ensemble, en commun, à travers les décennies. Marc a aussi joué dans un de mes films de grand départ. C'est une des dernières choses qu'on a faites ensemble, à part La Petite Vie. Il a joué dans mes pièces de théâtre. Il a joué dans... On était toute une gang d'amis, de chums, si on peut dire, du milieu. Il y avait Serge Thériault, Louis Saya, moi, Marc, Rémi Gérard. On était toute une gang qui avons grimpé ensemble, si on peut dire, qui avons vieilli ensemble, qui avons fait des projets ensemble. Mais Marc, plus particulièrement, Marc, j'étais bien ami avec dans la vie. On a eu des enfants du même âge. On voyageait ensemble avec nos familles. On louait des chalets ensemble. On a voyagé des amis de tennis. On allait jouer au tennis, des gangs de chums ensemble. J'étais très proche de Marc. On écoutait le hockey ensemble. On faisait bien des affaires ensemble.
Vous venez de parler, M. Meunier, de votre film Le Grand Départ. Pourquoi vous aviez choisi Marc Messier pour jouer le rôle principal?
Parce que Marc, c'est un acteur qui était à la fois, justement, ça va bien résumer, parce que Marc, c'est un acteur fabuleux qui avait beaucoup de nuances dans son jeu, autant dans la comédie que dans le drame. Puis c'est un acteur qui pouvait jouer sur deux plans. Il pouvait jouer sur la comédie, il pouvait jouer sur le drame. Il alliait toutes les cordes, il avait toutes les cordes du jeu possible. Puis Grand Départ, le personnage qu'il jouait, c'était un personnage qui le film était une comédie dramatique. Fait que lui et Guylaine Tremblay, qui étaient dans le film, mais ces deux-là, ces deux acteurs un peu du même calibre, des acteurs qui peuvent jouer autant la drame que la comédie, avec beaucoup de finesse. Marc, il y avait beaucoup de finesse dans son jeu, beaucoup de... C'est un acteur, c'est une personne qui avait beaucoup de classe, puis tout ça se dégageait dans ses affaires, dans ses, son interprétation.
Oui. J'ai envie de vous demander, au-delà de ce qu'il faisait à l'écran, tu sais, quel genre de collègue c'était, parce que vous avez écrit des rôles, justement, pour lui, là.
Mais c'est un collègue... C'est un acteur qui jouait, qui était toujours, tous les, quand tu écrivais un texte pour Marc, tu étais certain que c'était un gage de succès. C'était un gage de succès. Il poussait le texte au, comment dire, il rendait toujours le texte au maximum. Puis Marc et moi, on avait une grande connivence. Puis des fois, j'écrivais des choses bien flyées ou bien capotées dans l'humour. Ou même dans le drame, des fois, quelques fois quand j'ai écrit des affaires plus dramatiques pour lui, mais lui, il rendait tout tellement bien, c'était un acteur... Mais il était très inspirant pour moi. Moi, j'écrivais puis j'entendais Marc parler. Vraiment. Puis je pouvais l'imaginer, je pouvais l'entendre parce qu'il était... Il m'a beaucoup marqué comme acteur, puis je l'entendais parler. Fait que... Puis, c'était facile pour moi d'écrire pour Marc, dans ce sens-là, d'écrire ses personnages. Puis, je savais jusqu'à où il pouvait aller dans la folie. Puis, il y avait une sorte de vérité tout le temps dans son jeu, même avec Régent, la petite vie. Il était tordant, mais il jouait les personnages à fond. Là, il était toujours dosé, en plus. Il cabotinait pas. Il était drôle, mais il était pas cabotin. Il était vraiment fabuleux comme comédien.
Est-ce que c'est déjà arrivé qu'ils vous disent « Hey, non, ça, ça va trop loin, ça, je suis pas à l'aise » ou « La confiance était aveugle et mutuelle »
Non, nous autres, on n'avait pas de limite vraiment entre nous. Mais je sais pas où ça aurait pu aller trop loin dans mon genre d'écriture. Je sais pas trop. Non, c'est pas arrivé vraiment, sincèrement. Puis il était toujours game pour essayer des affaires. Puis on parlait beaucoup. Moi, quand j'écrivais, souvent, je parlais avec lui de ce que j'étais en train d'écrire ou pour écrire ou ce que j'étais en train de préparer. Puis lui, il était bien, comment dire... Marc, il parlait beaucoup avec Louis Saillant et moi quand on travaillait sur des projets communs. Il me donnait son point de vue. Et en même temps, il était très respectueux de nos affaires. Comment, je ne sais pas comment dire ça. Là. Il essayait beaucoup de rendre ça le mieux possible.
Ouais. Il respectait votre travail à travers tout ça aussi. Là.
Ben, il était mieux de le respecter. Moi, de
Comment il était dans la vie privée, si je peux me permettre? Je trouve que ça fait partie d'honorer une personne au-delà de ce que nous, on connaît de cet individu-là à l'écran.
Mais il était vraiment ce que vous pensez qu'il était. Il était très, très, très joyeux, très drôle, très agréable à vivre. C'est un gars qui aimait être bien, qui aimait que le monde soit bien autour, puis qui voulait que la vie soit agréable. C'est un gars, comment dire, il aimait ça, la vie. Il aimait la vie, il aimait le party. Il aimait... C'est un vrai Québécois, comme on l'imagine, très, très jovial. Un gars qui avait toujours le sourire d'en face, là, je dirais. Il était très... Lui, il aimait rencontrer les gens, il aimait les gangs. C'était un gars de gang, c'était un gars de groupe. Puis, dans les tournages, il était toujours le gars le plus... le premier à vouloir rire, puis à vouloir...
Ça fait plaisir d'entendre ça. Parce que, tu sais, souvent, M. Meunier, il y a une distance entre le public et ce qui se passe à l'écran. On imagine, on espère.
On a des entrevues, on a des perceptions.
On entend « Rencontrez pas vos idoles », tu sais, des fois, parce qu'on peut être déçu. Mais on a toujours eu l'impression avec Marc Messier que c'était pas le cas. Fait que de vous entendre
dans sa gang,
ouais. Il y a de quoi de le fun là-dedans.
Oui, oui, il était vraiment très, très, très le fun à travailler. Puis... C'était un trooper, là. C'était comme, ouais.
Son rôle le plus marquant, selon vous, qu'il a laissé derrière, ça a été quoi?
Oh mon Dieu, il y en a plusieurs grands rôles qu'il a fait, Marc. Hey boy! C'est dur d'en nommer juste un. Ben, je pense que Marc Gagnon, c'est le rôle qu'il a fait connaître au départ. Je pense que dans Brou, il a fait des personnages qui sont passés à l'histoire un peu. Puis Régent dans la petite vie, je pense. Dans les Boys, son personnage des Boys, là. Comment il s'appelait les Boys, je me rappelle plus, là, mais son personnage des Boys. Il
s'appelait
il a joué
Bob,
dans tellement d'affaires.
C'était Bob Chiquan.
Hein?
Bob Chiquan.
Oui, Bob, c'est ça, Bob. Oui. Le chum de Stan. Mais non, mais il était vraiment fabuleux dans tous ses grands rôles. Il y en a eu beaucoup de grands rôles, Marc. Ouais.
Claude Meunier, avant de vous laisser aller, j'ai envie de vous demander l'héritage de Marc Messier pour la culture québécoise, à votre avis?
Mais je pense que c'est un acteur qui va passer à l'histoire un peu comme des grands comédiens du Québec, comme Jean Duceppe, ces acteurs-là, là, des grandes pointures d'acteurs, des gens qui ont marqué le Québec, puis que, auxquels il y avait une fibre québécoise, tu sais, comme Guy Lafleur, comme Michel Côté, comme c'est des acteurs qui ont marqué leur génération, puis qui étaient très proches du public. Marc, il jouait pour le monde, tu sais, il aimait le public vraiment, puis. Il y avait un jeu, on se reconnaissait dans ses personnages. Il faisait très québécois, il jouait. C'était un vrai québécois, Marc, québécois. Puis, comment dire, donc, il jouait pour son monde. Tu sais, les gens, c'était sa vie, le jeu. Puis le jeu, ben, c'était pour le public. Tu sais, c'est ça.
Merci d'avoir pris le temps de l'honorer, Claude Meunier. C'est un honneur de vous recevoir puis de prendre le temps de jaser avec vous cet après-midi.
Non, ben là,
mais je tiens à le dire. Ça doit pas être facile comme journée, on va être honnête, là.
Non, c'est pas la meilleure journée de ma vie.
J'en doute pas du tout.
Parler de Marx, au moins, ça me permet d'y penser d'une façon positive.
Je trouve ça génial.
Plus là, plutôt que de penser qu'il est plus là. Ouais.
Je suis d'accord. Je vous souhaite une belle fin de journée dans la mesure du possible. Ouais. Effectivement, prenez soin de vous. Au plaisir de se reparler dans des circonstances un peu plus joyeuses, éventuellement.
Oui, bien, merci. Merci de m'avoir permis de parler, Marc. Merci bien.
Bonne journée, Claude. Salut. Claude de Meunier, que vous venez d'entendre, qu'on connaît pour tellement de projets, je veux le dire encore une fois, communs à Marc Messier, le pourquoi on voulait lui jaser aujourd'hui, la petite vie, les voisins, Brou, Marc Messier qui nous a quittés d'une maladie brève dans les dernières heures, entouré de ses proches à l'âge de 78 ans, un gars qui a eu une carrière énorme, autant dans les rôles plus comiques que dans les rôles plus sérieux. Ouais. Il y a longtemps, comme plus récemment, travaillant encore sur des projets, puis je trouve ça beau comment il y a peu de gens qui ne le connaissent pas. Ce gars-là était connu de tous. Tu vois son visage. Ah oui, au pire, tu connais pas son nom. Tu vois à face, tu le reconnais. Tu sais. C'est ce genre d'individu-là. Puis il y a vraiment un sourire qui me reste de savoir que c'était un vrai. Il était authentique. Puis de retenir ça, je trouve que c'est le plus bel hommage que tu peux pas faire à quelqu'un, de dire que ce que tu voyais. Tu sais, la fameuse phrase en anglais, « What you see is what you get ». Je trouve qu'on est là. Fait que encore un gros merci à Claude Meunier. Puis j'ai peut-être envie, si vous me permettez, les filles, qu'on... réécoute le petit montage que notre producteur nous a fait un peu plus tôt, montage de Marc Messier dans tout ce qu'il nous a laissé de plus beau, finalement.
La réplique dont on t'a le plus parlé dans ta vie?
La dureté du montage.
J'hésitais à ça ou sacrement?
Sacrement, c'est...
Faut que je vous parle de Vallée-Bras-du-Nord. Vous connaissez certainement cet endroit-là dans le coin de Portneuf, dans le coin de Saint-Raymond précisément. Je passe pas mal de temps dans le bout de ce temps-ci, fait que je peux vous en parler de long en large. Des activités familiales, il y en a tout plein. Par exemple, la descente de rivière. Les conditions de rivière sont exceptionnelles à cette période-ci de l'année. En passant, ça peut être super trippant. Il y a un nombreux choix de sentiers pédestres aussi pour tout le monde. Les plus avancés, les moins avancés. C'est une destination vacances qui est à proximité. On est à même pas une heure de Québec, panoplie d'offres d'hébergement, puis les hébergements qui sont un peu plus funky, là, des yourtes, il y a des mini-chalets, des refuges. Évidemment, on a tout ce qui est camping, hôtel aussi, mais il y a un aspect sauvage, immersion en nature, déconnexion totale. C'est pas compliqué, c'est une renommée internationale pour le vélo de montagne aussi, Vallée-Bras-du-Nord. Le décor est exceptionnel. Et je vous parle de destination vélo de montagne, pas obligé d'être... ça coche la coche, là. Il y en a pour tous les niveaux, même des sentiers familiales pour en faire avec vos enfants. C'est vraiment un endroit à visiter pour passer du bon temps en famille, des super belles journées de vacances. C'est à côté de chez nous. Allez faire un tour, vallebrasdunord.com.
Du 9 au 12 juillet.